RCF. Bonjour à tous et bienvenue au Pied de la Lettre, le rendez-vous avec la littérature sur RCF. Deux histoires vraies et romancées pour être encore au plus près de la vérité. Deux chemins de souffrance, de douleurs oubliées, profondément enfouies dans la mémoire du corps. C'est une histoire ancienne, c'était il y a longtemps, c'est du passé qui revient en pleine figure d'un petit garçon de 60 ans. C'est dire si la blessure est profonde, continuant à faire souffrir sans savoir pourquoi. Un jour, allez savoir, on comprend. Et on veut faire la lumière. Grégoire Delacour, l'écrivain au roman drôle, sarcastique, est un enfant blessé, un enfant réparé, un récit publié chez Grasset. La jeune fille est pleine d'énergie, fuyant Paris quelques heures pour profiter du grand air. Elle est rattrapée au coin du bois. La violence s'inscrit de manière indélébile, même si elle fait bonne figure. Les années plus tard, l'agresseur est identifié, les blessures se trouvent ravivées. Mais on ne l'ébruite pas, on laisse le lourd secret le plus loin possible. Parle tout bas d'Elsa Fotorino est publié au Mercure de France. En toutes lettres aujourd'hui, au cœur des blessures, c'est maintenant sur RCF.
Au pied de la lettre, Christophe Hénin.
Bonjour Grégoire Delacour.
Bonjour Christophe.
Depuis La liste de mes envies, paru en 2012, vous êtes un écrivain à grand succès. Vous racontez des histoires rocambolesques. Il est vrai que vous avez été aussi publicitaire, débordant d'imagination. Aujourd'hui, vous revenez avec un récit au plus près de la blessure que vous avez endurée, abusée par votre père. Dans un livre précédent, vous citiez en exergue Jean d'Ormesson. J'écris parce que quelque chose ne va pas. C'est un peu ça, ce livre aussi.
Ben, c'était prémonitoire en ce qui me concerne, oui.
Cette écriture a été plus personnelle. Ce livre est, j'allais dire, plus vrai que les autres, même si les autres étaient nourris de votre histoire familiale.
Ah, je ne sais pas s'il est plus vrai, en tout cas, parce qu'il y a une différence que je fais entre vrai et réel.
Ouais.
Il est à la fois vrai et réel, ce qui n'est pas le cas d'un roman où la réalité, on s'en fout un petit peu, c'est la vérité qui compte. Et là, c'est la première fois que le réel et la vérité se font un écho aussi intime.
On va en parler. Bonjour Elsa Fotorino.
Bonjour.
Vous êtes journaliste spécialisée de musique classique, rédactrice en chef de la revue Pianiste, fille d'Éric Fotorino, qui était venu parler ici à ce même micro de son livre Mohican, il n'y a pas très longtemps. Et vous êtes aussi romancière. Ce nouveau livre parle tout bas et sans doute aussi le plus personnel. Même question, c'est le rôle de la littérature peut-être, d'aller au cœur du mal?
Je crois que ça a été pour moi même... à l'origine, en fait, c'était cet événement, cette tragédie dans ma vie a été le moteur de l'écriture, je crois, dès le départ. C'est le livre que j'aurais aimé écrire en premier, mais je n'y arrivais pas. Il a fallu passer par les autres et il a fallu passer par la fiction. Et puis surtout, je ne voulais pas raconter cette réalité de façon trop brutale. Je voulais exprimer cette violence, mais pas coller à la réalité. Je voulais pas être aliénée par cette réalité que j'avais vécue moi.
Parce que c'est une histoire qui se raconte au-delà des détails, au-delà de la précision.
Exactement, justement, c'est ça. C'était tout l'enjeu pour moi était d'arriver, en quelque sorte, de transformer la boue en or, de faire de la littérature et de pas rester figé dans une expérience, de vraiment sortir du témoignage pour en faire un roman. Pour moi, c'était très très important.
On va en parler. Grégoire Delacour. Alors, la famille a pignon sur rue, le père est commerçant. Tout semble pour le mieux dans cette maison familiale impeccable. Et pourtant, pour reprendre les propos de la mère, la propreté dissimule le chagrin.
Oui, oui.
Que s'est-il passé?
Là, vous décrivez la maison du crime, si je puis dire, qui est ma maison d'enfance, où je me suis aperçu, il y a peu de temps, que mon enfance a été bousculée, mordue, dévorée. Et il m'a fallu très très longtemps pour m'en rendre compte. Pour apprivoiser une douleur qui était indicible, qui était lourde, qui était encombrante. Mais on ne savait pas. Personne ne savait. On m'a tenu à l'écart. On m'éloignait de moi-même, si je puis dire. Donc, mon corps avait beau exprimer un langage. Les autres ne parlaient pas cette langue et ne voyaient pas. Les médecins ne voyaient pas. Les parents ne voyaient pas. Ma mère ne voyait pas. Croyais-je. Et il m'a fallu l'écriture, comme l'évoque Elsa... pour comprendre ce qui s'était passé. Chaque livre était un petit caillou, une petite pierre comme ça dans ma vie, sous forme de roman. Et petit à petit, un malaise s'installait, parce que je me rendais compte que les enfants de mes livres étaient toujours cognés, bousculés, que les mères étaient toujours distantes, enfermées dans un brouillard de cigarettes mentholées, que les pères étaient absents. Et écrivant des héros et des héroïnes, j'ai plus facilement imaginé être l'un d'eux et jamais l'enfant de mes livres. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que les enfants qui souffraient, c'était moi. Mmh. Il y avait eu un article d'un journaliste de Libération, Édouard Launay, qui avait fait un portrait de moi il y a quelques années, dans lequel il avait écrit que chez moi, dans mon travail, il y avait toujours un enfant mort, et que cet enfant, c'était moi. Et évidemment, quand j'ai lu ça, j'étais effondré, j'ai pleuré. C'était très, très violent comme phrase, au milieu d'une belle page, avec une belle photo et des jolis mots. Il y a cette petite phrase qui m'a vidé, si je puis dire, éviscéré pratiquement.
Il imaginait l'impact de cette phrase, il imaginait ce qu'il disait derrière.
Je ne sais pas. Ce qui m'a fasciné, c'est qu'il ait pu voir ça. Alors que je n'avais fait que deux livres, on avait passé quelques heures à discuter, puis il s'agissait d'un portrait sur moi et pas tant sur le livre, hein, les livres étant le prétexte. Et il avait perçu ça. Et ça m'a hanté longtemps et j'ai voulu retrouver ce gamin. Aller le chercher, mais ça prend du temps d'ouvrir une tombe, d'aller creuser, de comprendre pourquoi il y a un petit enfant en vous qui souffre. Parce que c'est pas normal. C'est pas imaginable. Et donc on traballe comme ça un petit cadavre de soi sans savoir. Et après on dit, j'ai mal au ventre, qui est le lieu de ma souffrance. On a des douleurs considérables.
C'est persistant, récurrent.
Pendant des années, des décennies, et ni les médecins, les
scanners. Vous êtes bourré de médicaments pendant longtemps.
Oui, pour le ventre, et puis aussi pour oublier. Très tôt, ça se passe, là on parle il y a très très longtemps, puisque ça commence en 1965, et très très vite, les médecins de famille me donnent des médicaments pour me calmer, parce que je suis agité, je ne veux pas qu'on me touche, je ne veux pas qu'on me lave, je ne veux pas, etc. Enfin, j'ai ce corps qui crie quelque chose que personne n'entend. Et c'est vrai que je passe toute l'enfance et l'adolescence dans un brouillard de médicaments, et ça dure très longtemps, et des médicaments assez dangereux, je me suis rendu compte après, dangereux parce qu'on les prend longtemps. Et donc ça altère, semble-t-il, la mémoire, donc j'ai probablement eu non seulement un enfouissement de ce qui m'était arrivé, un enfouissement inconscient, mais en plus des médicaments qui avaient dû m'empêcher de renaître, de revenir à la lumière. Et donc ça a été long, il a fallu les mots pour détricoter, pour faire un chemin dans ses ronces et trouver mon histoire.
Mais comment l'enfant comprend que le père est distant? En tout cas, il faut rester distant vis-à-vis de lui.
Moi, je l'ai compris parce que je n'ai pas pu faire autrement que pas tant le comprendre que de le subir. En ceci que ma mère, très tôt, a dû soupçonner quelque chose. Elle m'en a évidemment jamais parlé, ça ne se faisait pas. On est dans les années où les femmes ne travaillent pas, où elles ont à peine le droit de voter. Voilà, c'est très compliqué. Et le silence permet aussi de protéger l'économie d'une famille, comme d'une institution, d'un petit groupe. Et le silence est terriblement confortable, d'une certaine manière. Il est rassurant, il anesthésie les choses. Et ma mère, très très tôt, m'a éloigné de la maison, d'elle, de ses bras, de sa tendresse. Et en tant que petit garçon, j'ai eu beaucoup de chagrin avec ça. J'ai souffert de l'idée que je me faisais qu'elle ne m'aimait pas. Et j'ai été nourri d'un amour qui me desséchait, si vous voulez. Et elle m'a envoyé en pension, elle m'a envoyé en colonie. J'étais jamais chez moi. Et j'ai mis très, 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 très longtemps à comprendre que derrière cet éloignement, elle m'avait, j'ai compris en écrivant L'enfant réparé, elle m'avait aimé d'un amour absolument inouï, qui est, je pense, le plus grand amour possible d'un être humain, c'est d'accepter de se retirer de la relation à l'autre pour que l'autre puisse vivre. Et ma mère a eu ce cadeau qu'elle m'a fait, qui m'a permis de rester vivant, en disant je ne vais pas profiter de lui, je ne l'aurai pas dans mes bras, je n'aurai pas toute cette chair d'un petit garçon qu'on aime bien, parce que j'étais son premier fils. Bon, elle aime bien mon frère, ma sœur, elle aimait bien aussi, évidemment. Mais aimer et à se priver de l'autre pour que l'autre puisse vivre, c'est quand même un amour qui est incroyable. Et ça, je l'ai compris, je l'ai pressenti assez tard, mais tôt dans ma carrière d'écrivain, puisque ce fut l'objet de mon premier roman, L'écrivain de la famille, où j'essayais en tant d'imaginer un petit garçon qui allait écrire pour raccommoder, pour tisser à nouveau ses parents qui étaient séparés. Les miens étaient séparés, et c'était une séparation douloureuse, violente, compliquée. Et je rêvais, comme tous les gamins, puisque j'avais été l'amour d'un homme et d'une femme, de pouvoir les réunir, les rassembler. Et donc, j'ai commencé à écrire une histoire, un peu, où un gamin écrirait une belle histoire pour ses parents. Et ma mère est décédée pendant que j'écrivais ce livre. Donc, il y a longtemps. Et elle n'aura donc jamais su que j'écrivais. Elle n'aura donc jamais su que je cherchais à renouer avec elle. Me relier à elle.
En même temps, alors, votre mère vous protège, mais en même temps, vous écrivez un moment, je souffre d'une peine mystérieuse, maman, vous vous adressez à elle, ouais. Elle a la clé,
elle
n'ose pas.
Non, c'est peu avant sa mort, elle était dans le sud de la France, je commençais à renouer un petit peu avec elle, et je lui dis, je ne vais toujours pas bien, comme quand j'étais petit, qu'est-ce qui se passe? Et elle ne répondait pas. Et je pense que mon doute lui interdisait de m'en parler. Elle se disait, si c'est pas, c'est peut-être encore une manière de le protéger, encore une manière de pas ouvrir cette fameuse boîte de Pandore, ces souvenirs qui sont terrifiants et dont la connaissance ne règle pas forcément quelque chose, pensait-elle. Donc j'ai découvert ça tout seul, et c'est la grâce des mots qui permettent de piocher aussi en soi, d'aller comprendre. Je suis étonné et agréablement enthousiaste quand elle a dit que c'était pas, elle aurait aimé que ce soit son premier livre, Parle tout bas, c'est ça, Parle tout bas. Et elle ne pouvait pas, et moi je ne pouvais pas non plus. Parce que même si je le savais, je ne pouvais pas l'écrire. C'est quelque chose de très difficile à écrire, et il faut un temps d'apprivoisement des mots, de soi-même, de la honte qu'on porte, de ne plus avoir honte de cette honte qu'on a, de penser qu'à un moment il est nécessaire de dire, pour
avec
se
des
dire...
Mots, avec des mots que vous choisissez, des mots pudiques hein, pour dire cette violence. Hein. Ouais. Quelque chose en vous a été détraqué, on vous a laissé cette violence-là. Aimer, c'est faire mal, et encore. Mon corps ne porte que les traces du temps, celles des coups résident à l'intérieur. Vous tournez autour de la question grâce à ces mots, justement.
Oui, les mots permettent de survivre déjà, d'expliquer des choses à soi-même, même avec une certaine poésie, j'ai envie de dire, puisque j'ai eu... envie de poésie aussi dans ce livre, j'ai pas envie de sordide, j'avais pas envie de raconter les choses, elles sont pas importantes les choses. Ce qui est intéressant, je pense, c'est la trajectoire qu'on a, ma blessure, j'ai presque envie de dire avec un brin de provocation, mon petit fait divers, il est pas important, il doit faire écho à celui de chacun. On a tous une enfance où à un moment on a été bousculé, cogné, injurié, dans une cour d'école, etc. Et on a tous des petits chagrins comme ça qui nous mutilent, qui nous font marcher de travers. Et moi, j'avais vraiment envie que mon histoire soit l'histoire de l'autre. Hein, puisqu'écrire, c'est être l'autre aussi. C'est lui donner la capacité de se dire dans nos livres. Et oui, vous parliez du corps, et le corps, c'est important, puisqu'il est, il a longtemps été mon traître. J'ai pas de traces. Mon corps, il a été abîmé par quelqu'un qui devait m'aimer. Indiscutablement, un amour de père, un amour qui devait être beau. Et au nom de cet amour détraqué, j'ai été abîmé, souillé. Incest, ça veut dire souillé en latin. Ça veut dire que j'ai été sali à jamais. Mais je n'ai pas de traces. Je peux aller voir quelqu'un, lui dire, on m'a fait du mal, regardez, mais où, contre moi. Je n'ai pas de coup de couteau, je n'ai pas eu de bleu, j'ai pas eu... c'est pire.
Et au contraire du silence, ce qui aide, c'est de parler. Et peut-être c'est par l'écriture, en tout cas pour vous, que vous pouvez faire encore partie des hommes. Vous écrivez, c'est la deuxième partie du livre.
Ouais.
Faire encore partie des hommes nécessite la vérité et non pas justement l'enfouissement.
Mais je crois, mais il est très très difficile de désenfouir, de déterrer, d'excaver ces chagrins et ces hontes. Et après, si on veut en parler, si on arrive à en parler, il faut trouver la langue, c'est-à-dire la langue que quelqu'un va comprendre. Et je ne parle pas de langage. Je parle d'une langue à inventer. Ça peut être la danse, ça peut être la musique, la littérature, parce qu'il faut que ce qu'on va dire soit recueilli par l'autre. Il y a trop de paroles qui se perdent ou qui ne sont pas entendues, de gens qui souffrent, qui veulent raconter leurs souffrances, ils ne sont pas entendus. Qu'est-ce qu'on fait du malheur de l'autre? Qu'est-ce qu'on fait du malheur d'un enfant? C'est encombrant la souffrance de l'autre. Donc on n'en veut pas. Donc c'est très difficile. Alors, il y a d'abord le corps qui parle à sa manière, mais les gens ne parlent pas ce langage. Tout le monde ne comprend pas un corps d'enfant détraqué. Et puis après, il y a les mots qui se bousculent, des mots qui ne veulent rien dire, qui sont les mots de la colère. Et puis après, on cherche une langue, on en invente une. Alors moi, j'ai écrit. D'autres peuvent danser, faire de la peinture. J'ai rencontré récemment un peintre qui m'a remercié d'avoir écrit son histoire. Et c'est drôle, j'écrivais la mienne, en fait, c'était la sienne. Et il m'a dit, il m'est arrivé la même chose, j'avais moins 9 ans. Et pendant 40 ans, vous avez écrit, pas depuis 40 ans en ce qui me concerne, mais peu importe. Moi, j'ai peint. Et je me suis rendu compte, en vous lisant, que je peignais pour recouvrir quelque chose, pour cacher quelque chose. Et maintenant, j'ai envie de peindre pour montrer. Et j'ai trouvé ça formidable parce qu'il a trouvé sa langue. Il a trouvé la langue dans laquelle il va pouvoir transformer, universaliser son immense douleur pour qu'elle puisse toucher l'autre par le biais de l'art. Et je pense que l'art est important parce qu'il permet, vous le disiez, de transformer la boue en or, j'aime bien cette formule, mais de pas laisser sale ce qu'il a été, d'en faire quelque chose de possible pour le monde.
De même, ce qui est important, c'est le moment de la prise de conscience. Enfin, et il faut parfois beaucoup de temps. Vous écrivez « Le jour où j'ai appris que j'étais une victime, je me suis senti vivant ».
Oui, parce que j'avais trouvé la source du mal. Et être une victime, c'est être déjà quelqu'un. Il n'y a rien de triste à être une victime. Il n'y a pas de larmoiement. C'est comme ça, on a été une victime. Mais au moins, on sait de quoi on est fait. On sait d'où vient la souffrance. On sait cette chose qu'on porte, qui nous singularise, qui nous fait nous reconnaître entre victimes. Et ça, c'est quelque chose qui m'a incroyablement surpris. C'est ce don qu'on a à se retrouver, cette fraternité incroyable.
Se reconnaître.
Ouais. Et moi, j'ai été reconnu avant que je me sois moi-même connu. Puisque après l'apparition de mon 8e livre, le roman qui s'appelle Mon père, qui traite d'un abus sexuel important par un prêtre, le père présume qu'il a abusé de son fils, j'avais reçu un courrier de quelqu'un qui me disait « Vous ne pouvez pas avoir écrit ça si vous ne l'avez pas vécu ». J'étais soufflé par cette remarque. Et j'ai compris après que je faisais partie d'une famille.
Celle des victimes. Elsa Fotorino, vous êtes d'accord ? Le jour où j'ai appris que j'étais une victime, je me suis senti vivant. C'est aussi ce que vous avez pu ressentir dans une autre forme d'agression.
Un peu différemment. Déjà, je suis très émue par tout ce qui vient d'être dit. Donc, j'ai envie de le partager. Après, je me suis sentie vivante au moment où j'ai eu l'impression de sortir du statut de victime. Et, parce que quand on est victime, alors c'est très important. Moi, c'est pas arrivé de façon aussi tardive que vous. Moi, c'était immédiat. Et en fait, on m'a un petit peu enfermée dans ce statut. C'est-à-dire que on se sent parfois un petit peu infantilisé. Les personnes qui recueillent vos plaintes sont pas toujours très très bien formées pour recueillir cette parole-là. Voilà, on le sait. Après, chacun fait au mieux et la justice est ce qu'elle est et la police est ce qu'elle est aussi et elle n'a pas que des défauts. Mais en tout cas, on peut tomber sur des personnes qui, même par gentillesse, pensent vous rendre service en vous regardant avec une pitié infinie ou en s'adressant aux autres qui vous accompagnent et pas à vous parce que on vous maintient dans une espèce de...
Vous n'êtes que victime.
Voilà, on vous maintient dans cette position-là qui est insupportable en fait. Et quand on la vit pendant des années, c'est insupportable. Et moi, j'ai essayé de toujours lutter pour sortir de cette situation parce qu'il y a quelque chose de très différent entre le statut de victime qui est un statut qui est essentiel en fait parce qu'il nous fait vraiment mesurer l'importance et la gravité de ce que c'est qu'un viol, de ce que c'est qu'un acte, une agression. Voilà, il y a énormément de façons d'être victime, mais ce statut-là, il doit être vraiment légitime et important. Par contre, il y a une grande différence entre le statut de victime et le fait de se vivre comme une victime. Et ça, c'est encore autre chose. Et pour moi, c'était très important de conserver ce statut, mais de ne pas me vivre comme une victime, parce que j'en avais déjà éprouvé les limites, parce que j'avais déjà reconnu la gravité de ce qui m'était arrivé, et que je voulais absolument sortir de cette étiquette qu'on nous colle très facilement. Voilà, c'est une victime, la pauvre, on la plaint. Oui, il y a tout ça, mais il y a la vie aussi, et notre vie ne se résume pas à cette identité-là à laquelle parfois on nous assigne de façon un petit peu définitive. C'est pour ça que j'étais très inquiète aussi avant la sortie de ce livre pour cette raison-là.
On en parlera tout à l'heure, parle tout bas votre livre. Grégoire Delacour, il y a un moment, c'est une petite parenthèse dans votre livre où vous parlez de ces hommes qui vont enfin marcher sur la Lune. Racontez-nous ce petit moment d'enfance.
J'ai une enfance brouillardeuse, alors j'ai peu de souvenirs. Il faut vraiment creuser pour les retrouver encore aujourd'hui. Mais il en est un, effectivement, qui m'a marqué. C'est celui de Bad Armstrong sur la Lune, j'étais en colonie de vacances, on nous avait réveillés pour voir sur la télévision,
en
noir et blanc à l'époque, les premières images qui étaient de fort mauvaise qualité, mais qui nous faisaient rêver avec les langues en français, en anglais en même temps, et tout ça était un joyeux bordel, j'ai envie de dire. Et on est sortis, je me souviens, on était en pyjama, on est sortis dehors du réfectoire où trônait le téléviseur pour essayer de voir la Lune. Alors je me souviens pas s'il y a des nuages ce jour-là ou pas, mais on regardait, on essayait de voir, et on a ri, et c'était quelque chose de très joyeux. Et je crois que pour la première fois dans ma jeune vie, j'avais 9 ans, je me suis senti un petit garçon comme les autres ce jour-là. Je garde cette nuit comme étant celle d'un enfant qui n'avait pas été abîmé, qui était intact, qui n'avait pas été décelé par les autres comme un enfant différent, comme un enfant qui avait été tordu, mangé. Et je garde un souvenir très ému parce que je me rends compte aujourd'hui que ça tient à pas grand-chose, ce bonheur-là, cette enfance-là, cette pureté-là. Et je suis depuis immensément triste. J'ai pas de colère, je suis siphonné de toute colère. La colère, ça sert à rien. La colère, c'est une espérance impatiente. C'est quelque chose qu'on attend finalement, qui s'exprime de manière brutale, mais on attend quelque chose de mieux avec la colère. Et là, j'en ai plus. C'est irréparable. J'ai pas de justice, j'ai pas de procès, il y a rien, il reste rien que ça. Et je garde ce petit souvenir comme un petit talisman parce que j'aurais pu être un enfant comme les autres. C'est tout simple, un enfant comme les autres, c'est rien. C'est un enfant qui crie avec d'autres dans une cour d'école et qui est heureux de rentrer chez lui. Et ça m'a été volé.
Et en même temps, quand vous écrivez, vous racontez votre histoire et vous pensez aux autres. Mon histoire est banale, c'est ce qui la rend triste.
Oui, mon histoire, elle est banale. On est des milliers, de milliers, de milliers à avoir été dévorés, souillés. Et c'est tellement triste parce qu'on est toujours des milliers, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je trouve ça formidablement dramatique que ça continue tous les jours, tous les jours, tous les jours. Puis qu'on s'en fout, finalement. Alors tant mieux, on en parle davantage, mais il ne se passe pas grand-chose. J'avais dit dans mon père, les enfants votent pas, alors on s'en fout un petit peu. On attend, il faut des affaires, il faut des people pour qu'on en parle, il faut des scandales dans une institution, mais ça fait tellement longtemps que ça dure.
Il fallait écrire ce livre pour s'en défaire, pour se défaire de ce drame.
Il fallait écrire ce livre parce que je crois que je n'aurais pas pu faire autrement qu'écrire ce livre. Je crois qu'il est le dernier chapitre de mes 10 livres, c'est le 10e, et je pense qu'ils racontent tous cette histoire-là, tous poussés, tous la recélée, cette histoire. Tout était dans mes livres, je ne les voyais pas, tout était là. Ça avait d'autres mots, ça avait d'autres, j'avais d'autres identités. J'étais parfois une femme, j'étais parfois un homme, mais j'étais toujours ces enfants abîmés,
sacrifiés,
voilà, sacrifiés. Et cette fois-ci, j'ai compris de quoi mes livres parlaient suite à l'écriture de mon père, et j'ai compris ce que j'étais en train d'écrire depuis 10 ans et qui sortait doucement. Le tout couplé à une parole avec un psychanalyste, parce que j'ai vraiment eu besoin, quand j'ai écrit mon père, de parler avec quelqu'un. J'avais trop de mots. Il fallait que ça sorte, il fallait que ça me blessait, les mots, ils sortaient pas. Et je pouvais pas encombrer mes proches avec ça. Encore une fois, on le disait, c'est encombrant, le chagrin de quelqu'un. Donc j'ai partagé ça avec quelqu'un d'autre et ça s'est mis en place doucement et c'était quelque chose de très beau. C'est comme la musique, il y a plein de notes par terre. On imagine, on les ramasserait, on les poserait sur une portée, ils prendraient place. Et ça a été ça. Et le psy que j'ai vu, en fait, je me suis aperçu que c'était un temps que je me donnais. Parce que voir un psy, c'est au fond se parler à soi-même. C'est avoir cette conversation qu'on reporte depuis longtemps, 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 et on n'a jamais le temps dans la vie. Et tout d'un coup, j'ai eu cette chance de pouvoir me parler, de dire, mais d'où vient ta souffrance? Parle-moi de ton père. Qu'est-ce que tu lui dirais? Et les choses sont vues.
Il vous pousse, hein, votre psy, hein, vous le racontez dans le livre par moment.
Il était bien parce que j'étais
allez,
pressé.
Allez, allez, allez.
J'étais pressé. Ouais. Il le savait, j'allais partir à l'étranger et je voulais régler au moins ce problème-là, arriver à cette violence-là et la supporter. Et après, c'est autre chose. Après, maintenant, j'avais un énorme silex dans ma chaussure, je boitais, j'étais assez difforme toutes ces années et on l'a trouvé, le silex, on l'a enlevé. Alors, ça n'enlève pas le boitement. On boite toujours, mais on va essayer de rendre la démarche gracieuse. Et c'est ce que j'essaie de faire.
Elsa Fotorino, vous avez lu hein, L'enfant réparé de Grégoire Delacour. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette lecture?
Une très grande pudeur. Moi, j'ai trouvé que c'était très beau, c'était tout en délicatesse et le fait justement de ne pas décrire, en fait, j'ai trouvé ça très fort. C'est presque plus fort finalement. C'est que on n'a pas un regard qui cherche à voir ce qui ne nous regarde pas. On a un regard qui cherche à comprendre et qui cherche à s'évader. Moi, j'ai trouvé que c'était très beau dans une langue toujours très poétique et très évocatrice.
Merci.
Qu'est-ce qui vous a sauvé, Grégoire Delacour ?
L'amour. Les mêmes choses qui m'a détruit. C'est un revolver, l'amour. On peut faire le bien ou le mal. Et il y a un amour qui m'a fait énormément de mal et un autre qui m'a sauvé, celui de ma mère et celui de ma femme. C'est les femmes qui sauvent, je crois.
Vous voulez bien nous lire un passage de votre livre ?
Je regarde mes mains. Bien qu'ils soient plus fins, plus longs, il me semble certains jours que mes doigts ressemblent aux siens. Je m'empresse aussitôt de les dissimuler sous la longueur d'une manche ou de les planquer au fond de mes poches. Ces jours-là, je ne peux plus les approcher de moi, de ma peau, remettre une mèche en place, ajuster mes lunettes, porter à ma bouche un fruit. Je ne peux plus effleurer quelqu'un, serrer une main, toucher. J'ai depuis l'enfance toujours fort mal tenu mes crayons et ils ont déformé mes doigts. J'ai plus tard soigneusement entretenu mes durillons d'écrivain. J'attends maintenant que l'arthrite les torde, qu'elle les différencie à jamais des siens.
Ce soir, mon petit garçon, mon enfant, mon amour, il pleut sur la maison, mon garçon, mon amour. Comme tu lui ressembles, on reste tous les deux, on va bien jouer ensemble, on est là tous les deux, seuls. Ce soir, elle ne rentre pas, je ne sais plus, je ne sais pas. Elle écrira demain, peut-être, nous aurons une lettre. Il pleut sur le jardin, je vais faire du feu. Je n'ai pas de chagrin, on est là tous les deux, seuls. Attends, je sais des histoires. Il était une fois, il pleut dans ma mémoire, je crois, ne pleure pas. Attends, je sais des histoires, mais il fait un peu froid ce soir. Une histoire de gens qui s'aiment.
Mon petit garçon, Serge Reggiani, 1967, un souvenir musical de Grégoire Delacour qu'on retrouve dans son livre « L'enfant réparé » paru chez Grasset et aujourd'hui aussi au pied de la lettre avec Elsa Fotorino pour « Parle tout bas » publié au Mercure de France.
Au pied de la lettre, présenté par Christophe Hénin.
Elsa Fotorino, un tour en vélo, prendre l'air, s'échapper pour goûter quelques instants loin des études de Paris, des soucis, et puis à 19 ans, se trouver face à un homme dans toute sa fureur, son mépris, qui commet l'irréparable et s'enfuit. Et il faudra 12 années pour retrouver le violeur. Que de temps et de souffrance.
Oui, c'est très long parce que le temps de la justice est évidemment incompatible avec le temps de la souffrance. C'est pas le même temps. Et une procédure judiciaire prend souvent au moins une décennie. Entre une plainte qu'on dépose et un procès, il peut y avoir 14 ans, 15 ans, 20 ans. Après, j'ai pas attendu non plus une conclusion judiciaire pour essayer de m'en sortir.
D'autant plus qu'on vous dit, si on ne le rattrape pas dans les jours qui viennent, après, il y a très
rarissime.
Peu de chance. Quoi.
Alors, il faut savoir quand même que c'est rarissime. Hein. Aller se promener en forêt et se faire violer dans une forêt, a priori, ça n'arrive jamais. Enfin, très très rarement. Et puis surtout, retrouver le coupable, qu'il soit condamné, ça n'arrive jamais non plus. Donc c'est quand même... Le viol est une chose malheureusement extrêmement banale. Mais dans ces conditions-là, heureusement, ça reste... reste quand même assez rare. Et malgré tout, j'ai eu de la chance quelque part dans mon histoire, c'est que finalement, il puisse être retrouvé. Mais là où c'est assez dramatique, c'est que ça a supposé évidemment d'autres faits commis et d'autres victimes.
Mais ce qui est terrible quand même, c'est quand on lit, quand vous écrivez, je fais partie de ceux qui ont eu de la chance.
Ouais, mais c'est très ironique. C'est très ironique quand je dis ça, parce que c'est une phrase que j'ai souvent entendue.
C'est quand même ce qu'on vous a dit, oui.
Oui, c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce que mes proches m'ont dit, parce que je n'ai pas osé, justement, comme disait Grégoire de la Cour à l'instant, les encombrer de ma douleur, les encombrer de ma souffrance.
Et ne donc, pas être réduit à ça. Donc,
voilà, oui. Et ne pas être réduite à ça. Donc j'avais beaucoup d'orgueil, en fait, dans ma douleur. Je voulais dire au monde que tout allait bien, que je pouvais continuer à vivre comme avant, ce qui était complètement faux. Mais en tout cas, en apparence... j'arrivais à suivre la mécanique des jours, ce qui était déjà bien, mais ma mémoire était devenue complètement une espèce de gruyère et de flou. Je n'arrivais plus à me concentrer sur rien, mais en tout cas, en apparence, j'arrivais à suivre le mouvement de la vie. Et je n'ai pas voulu encombrer mes proches, justement, de la gravité de ce que j'avais vécu. Donc j'ai toujours minimisé. Et le fait que j'avais l'apparence de quelqu'un qui allait bien leur a aussi donné cette confiance-là. Ils se disaient, mais finalement... c'était peut-être pas si grave, on n'a peut-être pas si bien compris. Finalement, tu as eu de la chance.
Et 12 ans après, donc, il y a cette information, vous êtes convoqué au commissariat, et voilà,
oui.
Et on a retrouvé l'agresseur, et du coup, il faut se remettre dans cette histoire.
Alors, il faut savoir que quand j'ai porté plainte, quand j'avais 19 ans, immédiatement le jour même après les faits, je ne me suis pas constituée partie civile. C'est-à-dire, quand on se constitue partie civile, c'est qu'on réclame potentiellement des dommages et intérêts. On a accès au dossier, on a accès à la procédure judiciaire, etc. Et moi, je m'étais toujours tenue à distance de ça, toujours tenue à l'écart. Et je ne voulais pas regarder ce passé. Je vivais dans une sorte de relative indifférence du passé. Mais j'avais quand même régulièrement des appels. Enfin, quand je dis régulièrement, c'est... 2 ans plus tard, puis 3 ans après, puis un courrier qui m'annonce le classement sans suite, puis finalement une autre audition 1 an après. Donc il y a eu quand même un certain nombre d'épisodes dans la décennie où j'ai dû me confronter à des enquêteurs, j'ai dû mener des interrogatoires, enfin les subir plutôt, et reconnaître des planches de photos, etc. Donc quand on m'a appelé 12 ans plus tard pour me dire voilà, rendez-vous à la police judiciaire, j'avais pas du tout compris que c'était pour un tapissage. Donc un tapissage, c'est quand on doit reconnaître quelqu'un, comme dans les
à travers une vitre teintée.
Voilà, c'est ça, à travers un miroir sans teint. Et puis derrière, il y a un certain nombre de personnes avec des numéros et on doit déterminer. Voilà. Et donc là, je l'ai vu devant moi, alors qu'on m'avait proposé les scénarios les plus abracadabrants, pendant des années, c'est-à-dire de personnes qui prennent du poids, de personnes qui se griment ou qui se font pousser la barbe ou qui changent vraiment leur aspect physique pour devenir méconnaissables. Et là, je me suis retrouvée face à cet homme qui avait exactement le même visage, c'est-à-dire qui n'avait pas changé. Pour moi, c'était vraiment, il sortait de ma mémoire de façon complètement intacte. Donc ça m'a saisie comme une évidence, mais je ne me suis pas sentie, je n'ai pas été frappée de stupeur ou je n'ai pas eu le sentiment d'une souffrance ou de quelque chose de terrible à ce moment-là. Mais par contre, cette histoire est revenue me hanter. Surtout que j'étais enceinte à ce moment-là de ma vie et qu'il y avait une sorte de mélange d'émotions. J'étais enceinte d'une petite fille et il y avait cette idée que il fallait qu'elle soit en sécurité et le fait qu'il soit derrière les verrous, qu'il soit retrouvé, pour moi, c'était l'idée que voilà, il était enfin en sécurité et tout ça a fait émerger ce livre. En fait, ça m'a hantée et je me suis mise à écrire ce livre.
Et dans le livre, vous expliquez aussi la douleur est toujours présente. Un jour, je dirais, la douleur, j'en suis revenue.
Oui.
Il faut du temps pour cela.
Il faut du temps, puis parfois on ne sait pas vraiment la nommer. Moi, c'est quelque chose de diffus, on ne la sent même pas parfois. C'est ça qui est très curieux, c'est qu'on sait qu'on souffre, mais on ne sait pas où on a mal.
Et c'est un peu pareil aussi pour... vous dites à un moment aussi, rien de grave, je me demande où est passée ma colère.
Oui, je n'ai jamais éprouvé de colère. Je n'ai jamais éprouvé de colère par rapport à ça. Je crois que c'est aussi ça qui m'a permis de continuer à vivre, c'est-à-dire que je n'avais pas de désir de vengeance en moi, ou j'éprouvais curieusement une sorte de paix intérieure par rapport à cette histoire, en me disant qu'elle était arrivée, que ça faisait partie de ma vie, que ça faisait partie de ma personne, mais qu'en aucun cas, il fallait que je nourrisse une sorte de haine qui allait m'emprisonner.
Vous risquez de l'entretenir, finalement.
Voilà, c'est ça. Je crois que que la colère... Après, chacun réagit à sa manière. Et en tout cas, moi, elle ne m'a pas traversée. Et j'ai tout de suite eu aussi certains outils que j'avais à ma portée. Et ça, c'est une chance inouïe. Quand on est une jeune fille de 19 ans, on n'a pas toujours ces outils à sa portée. C'est-à-dire que j'avais les mots, j'avais l'écriture, j'avais les livres et puis j'avais le piano surtout. C'est une période où j'ai énormément joué du piano. Je n'arrivais plus à rien faire en cours. C'est-à-dire j'étais en classe préparatoire et on est censé quand même assimiler énormément de livres, énormément de connaissances et je ne pouvais plus me concentrer, j'arrivais plus à retenir quoi que ce soit, je n'arrivais plus à développer, à construire et à structurer ma pensée. Mais par contre, la seule chose que j'arrivais à faire, c'était faire de la musique. Et donc je travaillais pendant cette période-là une sonate pour violoncelle et piano de Brahms, en mi mineur, magnifique. Et donc j'ai travaillé cette sonate et c'est ça qui m'a... C'est la seule chose que j'arrivais à faire, en fait. C'était prendre à bras le corps cette musique. Il y a aussi une dimension qui est purement physique et technique dans la musique. Il n'y a pas simplement la pensée. Et parfois, ça me faisait du bien simplement de me dire, voilà, je vais essayer de surmonter un obstacle technique et de répéter. Et ça, c'est quelque chose qui m'a sauvée quelque part, parce que j'ai eu l'impression de retourner dans cette espèce de flux, de rivière de musique, et qui était un peu le flux continu de la vie.
Mais en même temps, il y a des choses qui... Enfin, il y a une sorte d'insécurité qui s'installe. Vous écrivez à un moment, j'ai renoncé à ces élans spontanés qui ne se doutaient de rien. Fini les petites échappées, oui, à vélo. Oui. On surveille chaque
oui,
situation, alors, finalement.
Oui, ou alors, mais ça m'arrive encore de monter sur mon vélo et de me dire, allez, fais-toi violence, vas-y. En fait, c'est sûr qu'à ce moment-là, il y a la peur qui est arrivée, qui a commencé à m'habiter, qui parfois me prend en tenaille, de moins en moins quand même, hein, mais de façon un petit peu imprévisible, et c'est quelque chose qui me prend à la gorge, c'est-à-dire... que soudain, aller à une soirée ou revenir d'une soirée entre amis, enfin surtout quand j'étais étudiante, hein, c'était tout de suite, mais comment je vais faire pour rentrer chez moi ? Le taxi, il n'en est pas question, bon, ça a changé, mais me retrouver piégée dans un habitacle avec un inconnu, c'était impossible, donc taxi impossible, rentrer à pied, ah non, c'est trop dangereux, alors je me retournais tout le temps, enfin bon, il y a toutes sortes de choses comme ça, donc en fait on construit des stratégies d'évitement dans ces cas-là pour éviter de se mettre dans des situations qui nous confrontent à nos démons et à nos peurs.
Mais avec, et ça aussi vous le dites très bien, cette envie très intense d'être heureuse.
Oui, bien sûr. Et j'ai toujours été rattrapée par cette vie, parce que de toute façon, elle est là. Et il y a ce moment qui est quand même assez contradictoire aussi dans une expérience comme la mienne. C'est qu'on fait soudain l'expérience de la sauvagerie. Et ce qui compte le plus dans cet instant-là, c'est la survie. On veut absolument survivre. Et quand la personne s'en va, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Moi, je ne savais pas s'il allait me tuer, pas me tuer. Je me retrouve au milieu d'une forêt toute seule avec un détraqué mental. Je dis que
qu'est-ce qu'il faut sauver ? Est-ce qu'il faut...
Oui, ça, c'est la question de la culpabilité aussi qui m'a hantée. Parce qu'à un moment, j'ai eu l'opportunité de me sauver. Parce que j'étais à vélo, à un moment, donc j'ai posé mon vélo, on marchait, il me disait, voilà, dans cette direction, et je parlais du vélo. Pour moi, c'est une façon de me calmer aussi, et je lui disais, mais je suis très ennuyée, c'est le vélo de mon père, il est tout neuf, il me disait, t'inquiète pas, personne passe jamais par là, on va pas te le voler, donc c'était censé me rassurer. Et donc, j'insistais sur ce vélo, et au bout d'un moment, il m'a dit, eh ben, va le chercher. Et là, j'ai été prise de panique. En fait, je me suis dit, je vais trembler, je vais pas arriver à saisir le guidon, je vais pas arriver à mettre mes pieds sur les pédales, je vais tomber, ça va être pire que tout. Et finalement, j'y suis pas allée. Je me suis dit, non, on va faire comme si j'étais en toute confiance, pas de problème, non, c'est bon. Et j'ai fait vraiment comme si de rien n'était. Mais ça, c'est un moment qui me hante en me disant, mais qu'est-ce qu'il se serait passé si j'avais pu saisir ce vélo à nouveau et m'enfuir.
Il est important de l'écrire, de raconter cette histoire, et en même temps, vous n'avez pas voulu être enfermé dans cette histoire, et vous écrivez, pour ne rien révéler, j'avais tenu tous les records d'apnée.
Oui,
ça veut dire que, contrairement à Grégoire Delacour, il n'y a pas cette mémoire traumatique qui efface. Ça reste là.
Alors, il y a cette Alors oui, alors il y a les deux en fait. Mmh. Il y a une mémoire qui avale, et en fait je me suis rendu compte de ça parce que au cours des nombreuses auditions que j'ai eues dans la décennie qui a précédé l'arrestation, les policiers demandent systématiquement la même chose, c'est-à-dire de raconter exactement les faits dans les détails les plus précis.
C'est épuisant.
Et puis c'est insupportable. À quoi bon? Puisque moi j'ai dit les choses une fois quand j'avais 19 ans, quand mes souvenirs étaient encore frais, et puis après ça a commencé à s'étioler. Et un jour un policier m'a rappelé quelque chose que j'avais oublié en me disant est-ce que vous confirmez tel fait, et donc il est revenu à ma mémoire, et en fait ma mémoire a comme ça avalé le pire, et quand on vous rappelle le pire c'est terrible. Et d'ailleurs c'est pour cette raison là que je n'ai pas voulu me rendre aux assises. Donc le procès s'est tenu sans ma présence physique, il y avait évidemment mon avocate qui était là pour me représenter, mais en fait au cours du procès on lit le procès verbal à voix haute, et moi je n'étais pas du tout capable d'entendre ça. Non.
Grégoire Delacour, vous avez lu le livre d'Elsa Fottorino, Parle tout bas.
Oui.
Qu'est-ce que vous avez aussi retenu?
C'est un livre, c'est dur de dire que c'est un beau livre à propos de ça, mais c'est quand même un beau livre. C'est un livre étonnant parce qu'il est calme et froid, il est minéral et distant, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de colère, il y a quelque chose comme si la chair abîmée est maintenue à l'écart. Par contre, il y a un rapport avec cet homme, surtout vers la fin, je trouve assez incroyable, où vous dites « je ne vais pas aux assises, car je ne lui ferai pas grâce de ma présence ». Comme si l'existence même de la narratrice, en l'occurrence, pouvait encore être une jouissance pour l'assassin, le violeur.
Ça.
Et puis elle a cette phrase terrible quand elle dit, et je crois que c'est la grande phrase de jouissance de la libération de la victime qui peut renaître à la vie, quand elle écrit de mémoire, excusez-moi, mais c'est ce que j'ai retenu, après les assises, il n'était plus une personne, mais un numéro d'écrou. Et cette phrase, elle est terrible. Parce que c'est comme un couperet de guillotine qui coupe ce cordon qui relie les deux, la victime et le violeur. Et je crois que c'est cette phrase qui me dit à mon lecteur qu'il y a une libération, qu'il y a maintenant une marche vers une chair neuve, j'ai envie de dire. Et c'est ça que j'ai trouvé très beau. Et puis la dernière phrase est assez magnifique. Celle qui parle du désespoir, oui. C'est ça. Que le désespoir de mémoire n'a jamais empêché d'être heureux. Et ça, c'est vraiment un truc important. Donc, merci.
Vous écrivez aussi, à force, on finit par vivre comme tout le monde, même si on garde nos petits récits intimes et secrets. On invente ses propres remèdes. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est peut-être le piano, le remède qui vous a sauvé.
Oui, la musique énormément. Oui, ça a été un remède, ça, c'est sûr.
Vous voulez bien nous lire le début de votre livre, Elsa Fottorino, Parle tout bas.
Je vais vous parler de l'horreur. L'horreur banale, anonyme, qui nous cueille sur le sentier de l'ordinaire et nous rend à lui sans laisser de traces. Parfois, elle ne rend rien. Je fais partie de celles qui ont eu de la chance, celles qui ont été remises à leur place initiale sans que personne ne constate l'effraction. Sinon peut-être un léger décalage par rapport à la position d'origine, un déséquilibre tout juste perceptible provoqué par ce déplacement. Mais rien qui indiquerait de rupture avec une version précédente de soi. J'ai conservé mes airs trompeurs de fille à papa, j'ai laissé sans trop m'en préoccuper régner ce malentendu, et j'ai continué à imiter encore longtemps cette image-là, accessoire de moi-même, et qui devait me rendre par contagion, à mon tour, accessoire. Certaines ne se remettent jamais, je le sais car je les ai entendues à la radio ou à la télévision dire « de cela, on ne peut pas guérir ».
Thank you.
Raphaël Perrault au violoncelle et Geoffroy Couteau au piano, qui nous interprète la sonate pour violoncelle et piano numéro 1 en mi mineur de Brahms. Enregistrement sur France Musique le 24 octobre 2020, au pied de la lettre aujourd'hui sur RCF avec Elsa Fotorino pour Parle tout bas, publié au Mercure de France, et Grégoire Delacour pour L'enfant réparé chez Grasset.
Au pied de la lettre, RCF.
Ce passage musical, Elsa Fotorino, j'ai envie de l'en faire mémoire encore, parce que dans votre livre, vous en parlez. Si cette année devait être une couleur, elle serait bleue. Celui qui tire vers le noir, le bleu des nuits, un bleu profond de mi mineur, couleur de la première sonate de Brahms pour violoncelle et piano. C'est ça la musique, c'est cette couleur qui est rendue à la vie.
Oui, c'est cette couleur incroyable, et on a parfois envie de faire partager avec les mots cette émotion tellement riche. C'est si difficile de parler de musique, parce que c'est une émotion qui est tellement intense, qui est tellement abstraite en même temps. Voilà, et ça, c'est une œuvre merveilleuse. Toute cette sonate est splendide, de grâce, de passion. Surtout le trio du deuxième mouvement aussi est extraordinaire. Je vous invite à l'écouter.
Voilà, écoutez, dans son intégralité, de la musique et de la couleur de Brahms, on peut passer aussi à la poésie avec Aragon. Un jour viendra couleur d'orange. C'était le titre de votre livre précédent, Grégoire Delacour.
Oui, oui.
Un jour des pôles nus où les gens s'aimeront.
Qu'est-ce que
Aragon,
c'est beau.
Qu'est-ce que c'est beau.
Ça donne envie d'y croire, non?
Vous y croyez?
Ça crée une belle attente. Ah oui, moi j'y crois. Moi je crois qu'on va vers le meilleur toujours. Sinon je serais plus là. Je serais tombé de la fenêtre de ma chambre à 10 ans. Moi, je crois qu'il y a une lumière. Et c'est peut-être parce qu'on est allé dans le noir le plus obscur qu'on s'attend et qu'on trouve la lumière.
Cette lumière, couleur d'orange, très certainement. Stéphane Bataillon, vous écoutez depuis le début de l'émission nos deux invités avec beaucoup d'attention. Vous allez nous parler poésie, peut-être aussi petite réaction
à
ce qu'on a pu partager depuis le début de l'émission.
C'est quand même le meurtre de notre état d'enfance à chaque fois, tout ce qui se passe là. Et il y a la mort et la vie, et cette vie qu'on, entre accessoires et chair inerte, il y a vraiment quelque chose qui est tué, qui ne devrait pas être tué. Et peut-être que la poésie, la musique, le fait de trouver les mots pour dire ces expériences-là, c'est ce qui fait peut-être renaître. Renaître pour continuer, et ça ne règle pas tout. Mais...
Avec les cicatrices, mais continuer.
Ouais. Et alors, je voulais vous parler d'un poème, je voulais vous parler cette semaine d'un poème d'amour. Alors, c'est le versant qui n'aurait pas été sali de l'amour. C'est un beau recueil de Mylène Tournier qui s'appelle Je t'aime comme et qui vient de sortir. Elle a une optique originale. Elle épouse la forme, en fait, du Je me souviens de Georges Perec. Mais elle actualise la déclaration d'amour en projetant un « je t'aime comme » dans plus de 100 lieux différents et contemporains classés par ordre alphabétique. Alors elle va d'un abattoir à un zoo, en passant par un bar à foot, un passage piéton ou un skatepark. Et ces phrases brèves invitent à explorer ces champs d'expérience en usant de leur lexique particulier. Une très large palette pour que le sentiment amoureux rebondisse sur les matières, créant une infinité de vibrations. Un nouvel inventaire dynamique de notre modernité dans un contexte post-Covid où l'espace, où les espaces ont tant besoin de retrouver un peu de matérialité. Et je vais vous lire un de ses poèmes qui s'appelle « Je t'aime comme une agence de voyage ». Je t'aime comme un départ immédiat. Je t'aime, on ira s'aimer dans d'autres paysages, loin. Je t'aime comme un magazine de voyage sur la petite table de l'agence de voyage. Comme au coiffeur, attendre, en feuilletant les visages et les coupes. Je t'aime. Rappelle-moi sans cesse que le monde n'est pas à ma mesure. Et c'est ça qui est bien. Je t'aime. Ne me laisse jamais seul avec le monde. Je t'aime comme la lune d'Agadir entre les deux immeubles haussmanniens. Je t'aime comme le globe terrestre éclairé dans l'agence de voyage fermée du dimanche soir. Je t'aime comme, face à l'agence de voyage, l'agence immobilière où louer Studet ou acheter Box. Je t'aime comme en classe affaires, le ciel est plus bleu et mieux servi. Je t'aime comme chaque escalier est une parcelle de voyage. Je t'aime. Mon voyage, c'est ton retour.
Merci Stéphane Bataillon. Vous rappelez simplement les...
C'est Mylène Fournier, Je t'aime comme, et c'est aux éditions L'Hurlure.
Voilà, un moment de poésie autour de ces espaces, c'est aussi un jeu sympathique de la poésie. Elsa Fattorino, s'il fallait choisir un lieu, justement, pour, comme dans ce recueil de poésie, ce serait quel lieu ? La salle de concert ? Autre chose ?
J'aime bien l'idée d'un aéroport pour continuer. Une salle de concert, c'est un peu écrasant quand même.
Oui. Mais puis vous avez l'habitude, donc finalement c'est peut-être moins dépaysant que les aéroports.
Ou un grand champ à la campagne.
Grégoire Delacour.
Les bras de ma femme.
Voilà le lieu de l'amour.
Oui, le mien maintenant, oui.
Est-ce que vous avez, pour ce livre, écrit de manière différente que les précédents romans, Grégoire Delacour ? Est-ce qu'il a fallu changer quelque chose dans la manière de s'installer, dans la manière d'écrire, dans la manière de prévoir cette écriture ?
Sans doute, de façon consciente, je ne sais pas, mais c'était évidemment un nouvel exercice d'écriture, puisqu'il n'y allait plus y avoir de filtre. Il allait falloir remplacer l'horreur par la poésie, par la pudeur, par une sorte d'élégance du réel. C'est-à-dire que ce réel horrible, il fallait l'évoquer, mais sans être dans le fait divers qui n'était pas intéressant. Et puis la frontière roman par roman, j'ai pas eu de problème. J'ai voulu absolument aller à la vérité, à la sincérité, à quelque chose de dénudé, de cru. Parce qu'il me semblait que là aussi, c'était encourager la parole de ceux qui ne savent pas parler et qu'il n'y avait aucune fiction possible, aucune dimension romanesque possible. Parce que là aussi, c'est encore un petit peu déguisé, c'est encore mettre un costume pour cacher des choses, le roman. Et là, j'avais besoin de cette vérité, dans ce qu'elle a de plus nu, de plus pauvre et de plus riche en même temps, ce moment de fragilité, mais de toute beauté, qui est cette nudité-là. Et je suis fraternellement surpris par tous les messages que je reçois de gens qui m'amènent leur nudité maintenant et qui me disent on peut parler, on peut, si vous l'avez fait, on peut dire les choses vraies. Et ça, je trouve que c'est un cadeau qu'on se fait les uns aux autres, de pouvoir se permettre de se dire et surtout de s'être recueilli, de pouvoir recueillir l'autre. Et moi, ça, c'est quelque chose que j'ai à cœur, c'est que cette parole qu'on va essayer de libérer dans les mois, les années qui viennent, que par la démarche de chacun ou même le gouvernement qui se pose des questions, d'arriver à la recueillir, on en fait quoi de cette parole ? On la met où ? Vous savez, c'est un peu comme le deuil dont j'ai tendance à penser que c'est un amour qui n'a plus d'endroit où se loger. Bah là, c'est cette parole endeuillée de cet enfant dont vous parliez qui a été meurtri et assassiné. On va le mettre où maintenant ? Parce qu'il existe encore.
Pour en faire mémoire. Elsa Fattorino, vous avez un rituel d'écriture. Ce livre, vous l'avez écrit un peu comme dans les précédents romans ou...
Complètement différemment, parce que déjà, il y avait plusieurs impondérables dans ma vie. J'ai des enfants en bas âge, donc j'ai écrit avant leur réveil, beaucoup entre 6h et 8h du matin. Et sinon, sur mes pauses déjeuner, avant et après de retourner au bureau.
Comme s'il y avait une urgence à trouver le moment d'écrire.
Oui, c'est ça. Il fallait vraiment être efficace. Je savais que je ne pourrais pas écrire ni le soir ni le week-end. Donc il fallait pousser les murs et trouver des espaces pour écrire. Ouais.
Quand vous écrivez pour vous-même, bien évidemment, mais aussi peut-être pour d'autres.
Bien sûr, surtout un livre de cette nature. Vous parliez tout à l'heure des fraternités silencieuses. Je crois qu'il y a quelque chose de très fort quand on écrit un livre comme ça. Vous savez, quand il y a eu le procès qui s'est tenu aux assises, alors en deuxième instance, le procès en appel, mon avocate a lu une lettre que j'avais écrite à destination de la présidente et du jury populaire. Et parce que je ne voulais pas venir. Et donc, à la fin de cette lettre, il y a plusieurs parties civiles qui sont venues la voir extrêmement émues au bord des larmes pour lui dire vous lui direz merci. Et pour moi, c'était une des plus belles choses, en fait, de ce procès, c'est de me dire, mais voilà la puissance des mots, en fait, voilà la puissance de la littérature, la puissance du langage, c'est de pouvoir donner cette émotion, donner cette parole à ceux qui n'ont pas forcément les outils pour l'exprimer de cette manière-là et essayer de toucher à une forme de justesse. Pour moi, ça, c'était un merveilleux cadeau.
Grégoire de la Cour, je vous vois approuver.
Non, je ne peux être que d'accord. Je trouve que c'est donner la langue à l'autre, la parole à l'autre, parce qu'il sait qu'elle va être recueillie. Je trouve que c'est un cadeau qui est extraordinaire, qui nous humanise, qui montre qu'il y a quand même une formidable espérance entre nous, quoi. Mm-hmm. Une humanité incroyable.
C'est aussi la force de la littérature de dire les choses sans les montrer. En tout cas, dans la situation, dans ce que vous racontez l'un et l'autre, il n'y a pas de voyeurisme.
Non, c'est la poésie.
C'est ça qui
si
compte.
Qu'on peut opposer à la pornographie. Si la pornographie, ça veut dire qu'il n'y a aucune différence entre la chose montrée et ce qu'elle signifie. La poésie, c'est l'exact contraire. C'est-à-dire qu'on montre quelque chose qui veut dire autre chose. Et ça, c'est magique. C'est-à-dire qu'on peut écrire des mots qui disent autre chose qu'eux-mêmes. On peut écrire dans le blanc des mots, dans les interlignes, dans les silences, dans les points de suspension. L'écriture, elle a mille facettes. La pornographie, elle n'a qu'une facette. Elle est crue, elle dit ce qu'elle montre, elle montre ce qu'elle dit. Il n'y a pas de rêve, il n'y a pas d'échappatoire possible. La littérature, c'est tous les échappatoires du monde. C'est toutes les clés possibles.
Et vous parliez du lieu de la parole. Peut-être que la parole précède et crée son lieu, en fait. Peut-être
sûrement.
Qu'elle est.
Sûrement. Vous savez, il y a une phrase, vous qui aimez la poésie, de Anis Koltz, que je cite au début du livre, qui est cette immense poétesse luxembourgeoise, bon, que personne ne doit lire malheureusement, parce qu'on ne lit pas assez de poésie, et ça devrait être obligatoire, comme le port du masque, de lire au moins un poème par jour. Et elle a dit dans un de ses poèmes ceci: je ne sais pas si j'ai écrit le poème ou si c'est le poème qui m'a écrit. Moi, je sais que L'enfant est paré, c'est ce livre qui m'a écrit. Je pense que Parle tout bas, c'est le livre qui vous a écrit. Et c'est ce qu'on peut écrire de l'autre qui est beau. Mm-hmm. Ce n'est pas nous qui écrivons, c'est eux. C'est qui on était. C'est cet enfant mort, c'est cette jeune fille arrachée à sa jeunesse dans un bois. C'est eux qui écrivent. Et nous, on leur donne la parole.
Les mots, la littérature, la musique aussi. C'est Brahms qui vous a accompagné pendant l'écriture, Elsa Fattorino?
Non, pas du tout. Et je l'ai peu écouté par la suite, de peur de réveiller des émotions
Votre bande originale, c'était
C'était beaucoup Schubert, les dernières sonates de Schubert, la musique de chambre de Schubert, La jeune fille et la mort, le quintetta de violoncelle, des sommets de la musique de chambre.
Dont vous parlez d'ailleurs dans votre livre. Grégoire de la Cour, il y avait une bande originale
Non, il n'y a plus. J'écris dans le silence, dans la bande originale du silence, parce que je me suis rendu compte que les musiques que j'écoutais sont belles et ont de l'influence, et parfois prennent un peu possession des mots et les entortillent dans des phrases qui m'échappent parfois. Donc j'ai décidé que le silence était mon meilleur compagnon et que les mots dans le silence, je les entendais mieux.
Eh bien, en tout cas, merci d'avoir rompu le silence pour cette émission tous les deux. Je vous remercie de votre accueil. L'enfant réparé, je rappelle le titre de vos ouvrages, L'enfant réparé de Grégoire de la Cour, c'est paru chez Grasset. Parle tout bas, Elsa Fattorino, c'est paru au Mercure de France. Merci à Pierre Samanos et Pierre-Henri Paget qui se sont partagés la réalisation de l'émission. Merci à Stéphane Bataillon pour cet instant de poésie au pied de la lettre. C'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez réécouter l'émission sur le site www.rcf.fr. Et puis d'ici là, n'oubliez pas cette invitation de Grégoire de la Cour à aller un poème par jour.